Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un nouvel invité que je vous présente sans tarder. Jean-Yves Boursier, bonjour.
Bonjour.
Jean-Yves Boursier, alors nous avions déjà enregistré un numéro de Wagon Livre, c'était en juin 2014 et nous avions avec vous mis en valeur un personnage haut en couleur qui fut le premier franc-tireur et partisan de Lyon, qui ensuite devint le garde du corps de Charles Tillon, une figure communiste bien connue. Et c'était Armand Simoneau, bûcheron du Morvan, communisme, résistance, maquis. C'était donc en 2014. Et vous avez d'ailleurs reçu le prix Marcel Vigreux, prix du Morvan, pour cet essai paru chez l'Harmattan.
Absolument.
Alors, vous avez vous-même fait une thèse il y a quelques années intitulée « Le Parti communiste français et la question nationale ». Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. J'en cite quelques-uns tout de même, Jean-Yves Boursier. Alors, il y a « La politique du Parti communiste », 39-45, « À l'Harmattan », « Résistants et résistance ». Mais ça, c'est un travail. Vous avez coordonné la publication de textes issus de communications présentées au colloque « Résistants et résistance » qui a été organisé en janvier 1996 à l'université de Paris 8 Saint-Denis. On mentionnera aussi sous votre plume la guerre des partisans dans le sud-ouest de la France, 1942-1944. Signalons aussi un camp d'internement vichiste, le sanatorium surveillé de la Guiche, c'est chez l'Harmattan. Et puis plus récemment, c'était chez Ovadia, en 2010, la fabrique du passé, construction de la mémoire sociale, pratique, politiques et enjeux. Et aujourd'hui, en ce printemps 2020, vous avez fait paraître un nouveau travail sur un instituteur de Lyon qui s'appelle Robert Simon, figure communiste de ce département. Alors Robert Simon est né en 1909 à Noyers-sur-Serein, il est mort en 1998 à Auxerre. Et ce dernier travail s'intitule « D'Auxerre à Mauthausen et Prague ». Le voyage de Robert Simon dans le siècle, c'est aux éditions du Croquant. Jean-Yves Boursier, d'abord, comment comprendre le sous-titre de votre essai, Le voyage de Robert Simon dans le siècle?
Alors c'est très simple. Le voyage, c'était un clin d'œil au livre de Georges Sampfroun, Le Grand Voyage, qui relate sa déportation. Et Sampfroun a été capturé par les nazis dans Lyon. Mais c'était pour montrer qu'il s'était déplacé, Simon, en différents lieux pendant ce qu'on appelle le siècle, entre guillemets, ce que plusieurs auteurs appellent le siècle, que ce soit Eric Hobsbawm ou à la Badiou, c'est-à-dire qui va de la guerre de 14 et la révolution russe jusqu'à la fin du communisme et de l'Union soviétique.
En 1990.
Voilà. Donc, période qui a connu la révolution, enfin, deux guerres, la révolution d'octobre, la période d'édification du socialisme en URSS, la guerre froide, la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, le fascisme, enfin bon. Donc un nombre d'événements importants auxquels Simon a participé pour un certain nombre d'entre eux. c'est-à-dire la période de l'entre-deux-guerres, la période de la lutte antifasciste, et la guerre, la déportation, et puis ensuite les débats et les contradictions internes au Parti communiste au moment de la guerre froide et au moment de, disons, contemporain au rapport Khrouchtchev et aux problèmes qui ont surgi dans les pays de l'Est.
Voilà. Alors, il faut bien comprendre que Robert Simon donc, est né dans Lyon, qu'avant que d'être communiste, il se range du côté plutôt du Parti Socialiste, enfin la vieille SFIO. Mais j'aimerais d'abord qu'on présente un peu le milieu familial et les origines sociales d'où vient Robert Simon. Alors je l'ai dit en début d'émission, il est né en 1909 dans Lyon, dans ce petit village de Noyères-sur-Serein. Il a une sœur, Eugénie, un frère, Charles. Et il faut reconnaître que cette famille Simon est marquée par le deuil. Là encore, les traces, les conséquences de la Grande Guerre en France.
Robert Simon dit que son enfance a été marquée par des torrents de larmes autour de lui. C'est-à-dire, son père est mort pendant les offensives de 1916. Il a des oncles blessés. Donc c'est comme beaucoup de familles paysannes, c'est une famille marquée par la guerre. Par la guerre de 14-18. Et il suffit d'aller au monument aux morts de Noyères-sur-Serein. On voit la liste impressionnante, mais comme dans la plupart des villages ruraux de Lyon, de toute façon. C'est véritablement... des frères, plusieurs frères qui sont sur les monuments. Hein. Donc, c'est un caractère sanglant dès le départ. Et ensuite, il voit des amis de son père qui sont mutilés, sa mère qui est obligée de travailler pour faire de la couture, pour nourrir les trois enfants, dans des conditions extrêmement difficiles.
Alors, il y a chez lui très tôt un éveil politique. Parce que dans sa famille, il y a la haine de la guerre, et pour cause, mais aussi cette haine qui va être durable chez Robert Simon, la haine des notables.
Absolument. Alors, je le signale, Robert Simon, son père était adhérent au Parti Socialiste, et c'était un jaurétien, il faisait partie des jaurétiens, comme un certain nombre de paysans de cette région étaient. Il y avait un nombre assez important d'adhérents à la SFIO. Et bon, ils n'ont pas pu arrêter la guerre, puisqu'ils sont allés la faire en plus, et ils ont laissé leur vie. Donc, ça c'est le premier point. Le second point, c'est... cette haine des notables que Simon développe rapidement, ce qu'il voit en les notables des responsables de la guerre et de la situation qui lui est faite.
Alors, Simon va mener de bonnes études. Là encore, nous en parlions avant d'enregistrer cette émission, où l'école de la République va être un véritable ascenseur social pour cet enfant qui est pupille de la nation, comme sa sœur et son frère. L'école de la République, c'est vraiment pour lui l'occasion de ne pas dépendre justement de ses notables, d'avoir une autonomie professionnelle et intellectuelle également, en embrassant très vite la carrière prestigieuse à l'époque d'instituteur. Devenir instituteur, c'était tout de même une référence dans la société de la France de l'époque.
Absolument. On voit très bien avec l'itinéraire des trois enfants Simon comment fonctionne le système des bourses pour permettre à des élèves méritants de poursuivre leurs études et d'accéder à l'école normale d'instituteurs qui était la voie permettant d'accéder à cette profession qui était très respectée et valorisée à l'époque.
Alors le parcours de Robert Simon, donc, c'est l'école normale, l'école primaire supérieure à Tonnerre, ensuite l'école normale d'instituteurs d'Auxerre de 1925 à 1928. Il devient instituteur en 1927, c'est-à-dire qu'il a 18 ans.
C'est l'âge à peu près normal pour ces instituteurs, 18-19 ans, qui sortent de l'école normale et qui après vont en poste, comme Simon, assez loin de chez eux d'ailleurs, avec un logement de fonction plus ou moins confortable. Et d'ailleurs, bon, Simon raconte comment il a fait son déménagement du minimum pour aller s'installer dans un village.
Oui, vous racontez son arrivée où effectivement il y a son matelas qui est roulé, un baluchon, et c'est l'instituteur qui arrive prendre son poste dans le village.
Oui, et souvent d'ailleurs, cet instituteur était secrétaire de mairie, mais pas toujours. Ce qui lui donnait une place importante à la fois pour l'éducation des enfants, avec les apprentissages fondamentaux, et puis aussi en étant au cœur du dispositif villageois par les fonctions de secrétaire de mairie. Simon a été quelque temps secrétaire de mairie, mais très peu. En fait, il a cherché rapidement à se rapatrier sur Auxerre, qui était la ville.
Oui, il faut ramener ça aux années, fin des années 20, début des années 30.
Et même quand il était instituteur à Migennes, il prenait le train pour aller assurer son travail d'instituteur. Mais il résidait à Auxerre.
Alors si vous le voulez bien, Jean-Yves Boursier, nous allons marquer une première pause musicale. On va continuer à dérouler ce voyage de Robert Simon dans le siècle. Nous parlerons ensuite de ses premiers engagements, en tout cas dans la gauche socialiste, hein, au sein de la SFIO, et puis parler aussi de son pacifisme. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité Jean-Yves Boursier, qui signe aux éditions du Crocan, d'Auxerre à Mauthausen et Prague, le voyage de Robert Simon dans le siècle. Première pause musicale à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Première rêve, oublié, les
Wagon Livre, votre émission littéraire.
D'Auxerre à Mauthausen et Prague, le voyage de Robert Simon dans le siècle, c'est un essai de Jean-Yves Boursier qui est aujourd'hui devant notre micro, essai disponible en librairie aux éditions du Croquant. Alors revenons sur cette figure du communisme iconé. Nous avons effectivement dit qu'il était né à Noyères-sur-Serein en 1909, qu'il devient instituteur en 1927. L'éveil politique est très fort dans cette famille de tendance jaurésienne. Lui-même n'est pas communiste dans les années 20-30, mais il rejoint une position qui est d'ailleurs une position assez défendue en France, c'est celle du pacifisme par rapport à la menace qui entoure la France, l'Italie de Mussolini et surtout l'Allemagne nazie qui se réarme dangereusement.
Alors je crois qu'il faut périodiser sur la question du pacifisme. Parce que le pacifisme de Robert Simon, dans les années, au début, fin des années 20, début des années 30, c'est le bilan assez répandu dans la gauche française de la guerre de 14-18. Le pacifisme qui suit n'est pas tout à fait le même. Mais Robert Simon est pacifiste, mais pacifiste révolutionnaire. C'est-à-dire le but, c'est d'organiser le changement politique et social. Donc c'est ce qui l'anime dans les années 30, notamment dans les comités antifascistes de Lyon, dont il est un des responsables avec Louis Aubry. Mais c'est une période, en fait, où Simon est hésitant au début de son engagement politique, il est hésitant entre les communistes et les socialistes. En fait, il trouve une position, je dirais, assez confortable, qui est d'être à la CGT unitaire de l'enseignement, donc avec les communistes, et en même temps d'être socialiste, de gauche, je mets des guillemets, appartenant à un courant qui se veut socialiste de gauche, voilà, qui après va s'appeler le courant pivertiste à la fin des années 30. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça que Simon est invité en Union soviétique en 1934, lors d'un voyage de syndicalistes enseignants, où on retrouve dans ce voyage des noms prestigieux, comme Jean-Pierre Vernant, par exemple, qui a été membre du Parti communiste et professeur au Collège de France, résistant dans la région de Toulouse, hein, et d'autres. Et donc, à l'invitation de l'Internationale syndicale de l'enseignement, Simon fait ce voyage en Union soviétique. Mais alors, il est toujours socialiste.
Alors, il faut dire aussi que le Parti communiste français a beaucoup de mal à se positionner en raison aussi des positions de l'Union soviétique. Par exemple, en 1935, Laval signe un pacte avec l'Union soviétique. Et finalement, pour les communistes français, on obéit aux grands frères soviétiques.
Pardon. C'est une véritable question. Cet alignement systématique sur la politique extérieure de l'Union soviétique. C'est le cas en 1935 avec ce que vous citez, le pacte Laval-Staline, qui a entraîné des répercussions à l'intérieur des comités antifascistes de Lyon, par exemple, où effectivement le dirigeant principal, Louis Aubry, qui était membre du Parti communiste, est passé dans l'opposition interne. Et après, et Simon était très proche d'Aubry et a suivi Aubry sur ce chemin. Donc ça a créé des divisions internes dans ces comités. On retrouve d'ailleurs après les difficultés en 1939 pour le Parti communiste à avoir une politique autonome par rapport au pacte germano-soviétique. Voilà.
Alors, donc on l'a dit, 1935, pacte franco-soviétique, hein, Laval-Staline. Il y a le 30 septembre 1938, alors les accords de Munich, signés par Daladier, représentant de la France, mais signature aussi avec les représentants du Royaume-Uni, Hitler et Mussolini. Et puis, effectivement, vous écrivez que Simon passe donc d'un pacifisme révolutionnaire à un pacifisme défaitiste, voire bel an. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce pacifisme défaitiste et ce pacifisme bel an ?
Alors, tout d'abord, l'expression pacifisme bel an est de Simon, elle n'est pas de moi. Je cite Robert Simon qui explique qu'il a, il a glissé vers ce pacifisme bel an à la veille de la guerre. Je crois qu'il faut contextualiser, c'est-à-dire que la situation est extrêmement complexe. Simon est donc membre de ce groupe de gauche du Parti socialiste autour de Marceau Pivert, qui va d'ailleurs scissionner et créer le Parti socialiste ouvrier et paysan, le PSOP, dont Simon sera un des responsables dans Lyon, où il y aura relativement peu d'adhérents. Et nous sommes dans le contexte où sont signés les accords de Munich, c'est-à-dire où Hitler est à l'offensive et où ce qu'on appelle, entre guillemets, les démocraties, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, cèdent à Munich face à Hitler et Mussolini sur la question tchécoslovaque. Et donc, quelle politique mener dans ces conditions ? Alors, c'est extrêmement complexe parce que, d'un côté, Simon fait partie de ceux qui disent tout sauf la guerre. Les communistes disent Munich, c'est pas bien parce qu'en fait, on n'a pas invité les soviétiques à la conférence. Et il n'y a pas d'alternative autonome. C'est-à-dire, quelle peut être une politique d'indépendance nationale en 1938 au moment des accords de Munich ? Quelle politique autonome peut-il y avoir face à la question de la guerre ? Et il y a ceux qui disent tout pour la paix et les autres avec l'Union soviétique. Mais avec l'Union soviétique, ça va se terminer quelques mois après par la signature du pacte germano-soviétique, c'est-à-dire en fait à la même chose, c'est-à-dire à la négation de la question, ce que j'appelle la négation de la question nationale. Qu'est-ce que c'est que prendre en compte la question nationale ? C'est comment, quelle politique a-t-on en France pour assurer l'indépendance du pays dans une situation de guerre ? Voilà. C'est-à-dire, par exemple, je prends ce simple exemple, quelle politique on a sur la protection de la population, sur préparer la population à la guerre, etc. Personne ne l'a fait. Ce qui entraîne, et là, le mot de Simon est absolument remarquable, dans sa brutalité, il est dans un isolement désespéré. Il est dans un isolement désespéré. Mais il n'est pas le seul. Lui, il le dit, mais les autres se volatilisent de tous côtés. Lui dit, je suis dans un isolement désespéré. Et la nuit arrive. Il dit d'ailleurs, la nuit arrive Et le problème, il le dit plus loin dans un de ses, une tentative d'ouvrage, son roman de guerre, comment marcher ?
Alors, en tout cas, il ne veut pas marcher au sein de l'armée.
Absolument.
Alors, est-ce qu'on dit qu'il a fait son service militaire, qu'il a refusé donc d'être élève officier de les EOR, ce qui d'ailleurs lui vaut déjà des tracas avec la justice militaire ?
Alors, les instituteurs...
étaient faits pour encadrer, pour être officier.
Étaient faits pour encadrer les régiments de paysans, oui. Comme ça a été le cas en 14-18, oui. D'où d'ailleurs les pertes importantes chez les instituteurs. Bon. Simon refuse de faire les EOR. D'ailleurs, il appréciait beaucoup son ex-beau-frère, enfin, à l'époque, il était son beau-frère, Paul Verneige, qui, lui, a fait le chemin inverse, c'est-à-dire est passé du Parti socialiste au Parti communiste en 1936. Et Verneige avait aussi refusé les EOR, et il avait été sanctionné. Donc, c'était... des éléments de pratique antimilitariste pour Simon et des gens comme Verneige. Et le problème, là aussi, quelle est la politique que l'on mène face à l'armée ? Alors, pendant un certain nombre d'années, avant le pacte...
germano-soviétique.
Non, avant le pacte Staline-Laval, les communistes avaient une politique à l'intérieur de l'armée. Ils avaient une politique d'organisation. Mais après, il n'y avait plus rien. Donc, les gens étaient livrés à eux-mêmes, les uns et les autres. Il faut toujours se poser la question, quelle politique est énoncée pour les gens ? S'il n'y a pas de politique, ben les gens font ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas se rallier à quelque chose qui n'existe pas.
Alors Robert Simon donc, fait son service militaire 1932-1933 à Auxerre, dans l'infanterie. On l'a dit, il refuse de suivre les EOR. Ça lui vaut donc 200 jours de consigne et 4 fois 8 jours de prison. Et il a tout de même très présent à l'esprit toujours cette haine des notables, qu'il considère comme responsable de la guerre de 14 notamment. Et il y a cette idée permanente en lui, c'est que les pauvres se font tuer pour les riches. Et ça, ça lui est insupportable.
Absolument. Mais c'est le point commun d'ailleurs entre Simon et une grande masse de gens. C'est-à-dire les pauvres se sont fait tuer pour les riches en 14-18. Ceux qui sont sur les monuments aux morts sont massivement des paysans, des gens de milieu modeste, etc. Bon. Et Simon déteste par-dessus tout des gens comme Flandin, c'est-à-dire le notable en chef de Lyon, qu'il avait eu l'occasion de voir lors de son conseil de révision. Et pour Simon, non seulement Flandin, c'était un réactionnaire.
Il avait tout de même été aviateur pendant la Première Guerre mondiale.
Oui, mais pour lui, c'était ces notables qui avaient amené à la guerre. Ensuite, c'est des gens qui étaient contre les instituteurs aussi. Ça, c'est important. Il fusionne les éléments. Mais Simoneau disait aussi la même chose sur Flandin. Simoneau disait, si Flandin n'était pas décédé peu de temps après la libération...
Flandin est mort en 58.
Oui, ben, il serait encore là, comme élu. Et donc...
Oui, parce que Flandin a été député de 1914 à 1940. On le trouve alors ensuite de décembre 40 à février 41, il est vice-président du Conseil des ministres de Vichy. Et ensuite, il aura effectivement des tracas, puisqu'il comparaît devant la Haute Cour de justice en juillet 46. Il est condamné à 5 ans de dégradation nationale, mais il sera réélu triomphalement dans le canton de Vézelay en 1955.
Eh oui. Mais et le flandinisme sera au pouvoir très longtemps. D'ailleurs, Simon,
on reparlera de l'épuration. On reparlera de l'épuration.
Non, mais pas d'épuration. Mais Simon était très focalisé sur Flandin. Oui. Dans ses archives.
C'est monomaniaque.
Oui, absolument. Dans ses archives, il y a à peu près 20 cm d'épais de documents qu'il avait collectés sur Flandin. Documents très connus, hein, des coupures de journaux, etc. Il était allé aux archives pour consulter des textes de Flandin pendant la guerre, au début de la guerre, etc. Bon, rien de nouveau, mais il en faisait le symbole des problèmes qu'il y avait eu en France pendant ces années. Bon. Alors, il est vrai que, je termine sur ce point, il est vrai que nous avons en France depuis, mais je pense depuis la Révolution française, une classe politique... entre guillemets, une élite politique, je mets des guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont au pouvoir, qui choisit toujours ce qui peut permettre de maintenir leurs affaires, et donc ils sont aux affaires pour leurs affaires. Et on les voit, et là je n'invente rien, on les voit à chaque fois qu'il y a une grave crise du pays. Lorsque la France est occupée en 1814, lorsqu'elle est battue en 1870, on les retrouve en 40, ils sont là pour se mettre au service de l'occupant, dès l'instant que leurs affaires fonctionnent. Ils sont pas forcément collaborateurs, mais il faut que nos affaires continuent de fonctionner comme avant.
Et de préférence avec nous, quoi, en fait.
Et d'ailleurs, en fait, c'est ce que dit Flandin. Flandin dit « Nous sommes les meilleurs pour gouverner ».
On reparlera de la guerre et du parcours, bien sûr, de Robert Simon, auquel vous avez consacré un remarquable travail. C'est le fruit de ces 10 ans de travail, je crois, Jean-Yves Boursier. Largement, sinon plus.
Mais c'est-à-dire 10 ans de dialogue souvent rude avec ce Robert Simon, d'entretien, de dialogue, parce que je suis un partisan de ce qu'on appelle le dialogisme, c'est-à-dire une interlocution entre deux personnes véritables, et puis après d'échanges beaucoup plus libres jusqu'à son décès.
Et Dieu sait si ce ne fut pas toujours facile de mettre les choses en ordre, beaucoup de digressions, parlant beaucoup, certes, mais dans tous les sens, parfois.
Bah d'abord, Simon avait beaucoup à dire. Et il avait essayé de consigner des mémoires sous la forme d'un roman, ce qui est une façon de prendre de la distance, qu'il appelait son roman de guerre, dont existe un nombre multiple de versions. Il n'a jamais pu l'achever. Donc on peut s'interroger, ça c'est une question, alors qu'il était capable d'écrire, puisqu'il a été très longtemps journaliste professionnel. Hein. Il a écrit un nombre incalculable d'articles dans Le Travailleur de Lyon, mais avant-guerre, dans Front antifasciste, etc. Bon. Donc c'est un homme qui savait écrire parfaitement, et qui n'a pas achevé le travail. Et donc, il avait envie de communiquer des choses, de les dire, mais vous voyez bien que Simon recoupe, la vie de Simon recoupe une multitude de questions.
Oui, la vie de Simon, elle est tantôt locale, tantôt nationale, tantôt internationale, plutôt sur la fin de sa vie. Mais on marque une nouvelle pause musicale. Je rappelle que c'est Jean-Yves Boursier qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre pour son essai intitulé « D'Auxerre à Mauthausen et Prague, le voyage de Robert Simon dans le siècle », ouvrage disponible aux éditions du Croquant. On parle de la Seconde Guerre mondiale et de l'engagement au Parti communiste de Robert Simon, juste après la pause musicale que nous vous proposons.
À ciel ouvert, une prison moderne cogne les sentiments et le moral en berne. Lenteur soudaine. Il y a ce qu'il reste en nous de faille, un disque rayé et le piano qui raille comme un galop d'avril sur un champ de bataille. Aussi long qu'un exil. Contre mauvaise fortune, mon cœur, rendez-vous sous un jour meilleur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Contre mauvaise fortune, mon cœur, rendez-vous sous un jour meilleur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À bout portant planté face à la mer. Il y a le printemps qui râle, se désespère, pourvu que ça profite à la terre. L'ennui au dedans, le mal au dehors, le jour d'après. Retrouver la vie d'avant, nuit 55 sur le pas de la porte qui s'ouvre. Contre mauvaise fortune, mon cœur, rendez-vous sous un jour meilleur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Contre mauvaise fortune, mon cœur, rendez-vous sous un jour meilleur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ici quelque part, en quarantaine, à rêver des trains, des heures souterraines. Sous un jour meilleur, à tout à l'heure. Contre mauvaise fortune, bon cœur, rendez-vous ici ou ailleurs, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Contre mauvaise fortune, bon cœur, à l'horizon on y voit la lueur, à tout à l'heure.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Yves Boursier, revenons avec vous qui signez aux éditions du Croquant cet essai d'Auxerre à Mauthausen et Prague, le voyage de Robert Simon dans le siècle. La guerre éclate et en 1939, très précisément le 16 juin 1939.
Non, le 16 septembre, la désertion.
La désertion, c'est 16 septembre, je vous prie de m'excuser, 1939. Robert Simon déserte. Et là encore, il prend un chemin pas tout à fait identique à celui du général de Gaulle, mais il déserte pas sur ordre, contrairement à quelqu'un comme Torres, parce qu'en parlant de déserteur, on peut parler aussi du cas Maurice Torres. Mais intéressons-nous à la position de notre partisan socialiste à l'époque, Robert Simon, instituteur dans Lyon.
Alors Simon, comme il le dit, est dans un isolement désespéré, donc il déserte et il explique pourquoi il a déserté. C'est-à-dire il ne voulait pas aller à la guerre sous la direction des officiers dont il considérait qu'ils le conduiraient au désastre. Bon. C'est son point de vue.
En tout cas, ça n'a rien à voir avec un défaitisme révolutionnaire. C'est pas non plus de la désobéissance civile.
Absolument, c'est ni de la désobéissance civile comme ont fait certains libertaires, ni du défaitisme révolutionnaire, puisque il n'y a aucun travail d'organisation pour organiser la révolution, hein, je mets des guillemets, puisque c'est comme ça que c'était présenté par les défaitistes révolutionnaires. Donc, il déserte. C'est-à-dire, en fait, il se met en dehors du coup, quoi.
Et en plus, les sanctions tombent, puisqu'en fait, il est révoqué par Daladier et il est condamné par le tribunal militaire de la 58e division d'infanterie à 6 ans de prison.
Alors, mais il est condamné à peu près au même tarif que Thorez et Guyot, qui désertent aussi sur ordre. Raymond Guyot, qui était de Lyon aussi, qui a été responsable des jeunesses communistes au niveau national, et Maurice Thorez, bon, qui eux désertent sur ordre. Alors que dans Lyon, ils sont 3 psopistes, 3 socialistes de gauche à déserter, mais sous leur propre directive à eux. C'est eux-mêmes qui se donnent la directive de déserter. Et d'ailleurs, tous les 3 seront des combattants anti-nazis pendant la période qui va suivre. Hein. Même 2 dans les Balkans, hein, avec les titistes, et puis Simon, lui, à Paris. Mais c'est une période où, comme il dit, il est dans l'isolement désespéré et il n'a encore pas trouvé le moyen de se ressaisir. Je cite ces mots. Donc il est conscient aussi de la situation extrêmement complexe dans laquelle il se trouve. Mais il n'est pas le seul à être dans une situation complexe, puisque des militants communistes qui avaient approuvé le pacte germano-soviétique, qui, eux, ont répondu à la mobilisation, se sont fait tuer sur le front, en première ligne. Il y a une contradiction, puisque le pacte germano-soviétique, c'est de ne pas combattre.
Alors comment Simon vit la défaite et il débute pour lui la clandestinité dans un premier temps?
Alors il est clandestin, mais à mon avis semi-clandestin à Auxerre. Il y a une telle désorganisation du pays. Le pays est véritablement, comme le dit Marc Bloch, comme il l'écrit, il est désagrégé, le pays. Donc quelqu'un comme Simon, qui a déserté, se trouve à Auxerre.
Une ville d'Auxerre qui, d'ailleurs, elle aussi est désertée par sa
une
population.
Partie, oui, alors il est à Auxerre, bon, il y a des complicités d'avant-guerre, il y a des amis, etc. Donc, et puis il va de temps à autre à Paris aussi. Bon, on peut aller facilement d'Auxerre à Paris, hein, même à cette époque, enfin, en prenant le train. Donc il n'est pas véritablement clandestin comme il le sera après.
Mais en tout cas, du 16 septembre 1939 au 7 juin 1940, il fait des collectes pour aider d'autres déserteurs.
Oui, c'est ses camarades du PSOP qui ont déserté. Mais à mon avis, c'est ce que je dis, c'est ce que j'écris. Il n'y a pas de véritable travail d'organisation. Je pense qu'il est comme les autres, il est sous le coup de Massu, qui arrive avec la défaite.
Et puis, il est rattrapé tout de même par les autorités militaires.
Alors, il est rattrapé, et son témoignage est extrêmement intéressant, mais il ne fait que confirmer tout ce que l'on sait sur l'étrange défaite dont parle Bloch. Donc il est repris à Langeac, hein, dans le Massif central. Il remonte à Clermont-Ferrand, la police, la gendarmerie le conduit à Clermont-Ferrand. Là, il est en prison. Après, il remonte sur Auxerre.
À la caserne Vauban, oui. Et ensuite, il va être envoyé à Dijon, à la prison militaire
Dijon,
de Dijon.
Et là, les Allemands arrivent. Il est mis dans un train avec d'autres prisonniers, direction le sud. C'est la grande débâcle. Et là, bon, bah, les Allemands vont plus vite. Et donc, les font remonter. Et c'est là... à Dijon, qu'il s'échappe et que commencent véritablement ses aventures.
Alors, les aventures de Robert Simon, qui finalement va être recherché par la police française dans un premier temps comme déserteur.
Oui, il est recherché comme déserteur. D'ailleurs, quand il sera arrêté en 1942 à Paris par les brigades spéciales des renseignements généraux, il connaissait parfaitement son pédigré. Simon socialiste, psopiste et déserteur. Les fiches de police étaient disponibles.
Alors, pour lui, la difficulté, c'est de savoir quoi faire et comment désormais se positionner dans une France occupée. Hein. Rappelons quand même que Pétain donc, succède à Paul Reynaud, le président qui a démissionné donc le 17 juin 1940. Le 22 juin 1940, c'est l'armistice. Le 10 juillet 1940, Pétain obtient les pleins pouvoirs des parlementaires et l'État français remplace la République française. Et comme beaucoup de Françaises et Français, et notamment des gens de gauche, que faire dans un pays vaincu, humilié? Une armée française humiliée, battue à plate couture, et surtout le retour de l'Allemagne, de l'ennemi un peu héréditaire de la France, qui occupe la moitié du pays.
Que faire? C'est toujours la question. Et que faire dans tel contexte? Dans quelle situation? C'est-à-dire, quelle est la situation? La situation est là extrêmement compliquée, parce que Pétain est en place... légalement mis en place par l'Assemblée, l'appareil d'État fonctionne avec les préfets, les sous-préfets, la police, la gendarmerie. Les communistes se sont repliés, beaucoup ont quitté le parti. A pas feutré, sans le dire, d'autres en le disant. Il y a le pacte germano-soviétique qui prévaut hein, jusqu'au 22 juin 1941. Donc,
pour les communistes, en tout cas, tant que tant qu'Hitler n'a pas attaqué l'Union soviétique, rompant ainsi le pacte germano-soviétique, les communistes français ne voient pas dans l'occupant un ennemi.
Mais si, il voit dans l'occupant un ennemi, mais il n'est pas combattu comme tel. Leur point de vue n'a pas changé sur le nazisme et sur le fascisme. Ce qui a changé, c'est qu'ils considèrent qu'il y a le pacte et donc qu'on peut faire avec. C'est l'idée de faire avec, ce qui entraîne des choses absolument effarantes. Où on voit dans l'été 40 des appels à Paris, dans la région parisienne, à reprendre les mairies communistes, à se réinstaller dans les mairies communistes, ce qui va être fait. Mais la police de Vichy va organiser des rafles immédiates et ceux qui avaient cru au retour à la légalité du parti vont se retrouver derrière les barreaux et dans des camps d'internement mis en place par Vichy. Et ce qui fait aussi que des gens comme Simon ont pu croire aussi en 40, au début de l'occupation, que les Allemands les laisseraient tranquilles.
Il y a... Et ça, c'est très intéressant dans votre essai, Jean-Yves Boursier. Vous dites qu'il y a trois camps d'internement vichiste dans l'Yonne, Saint-Maurice aux riches hommes, Vaudeur et Saint-Denis-l'Essence. À un moment, vous parlez même d'un camp à Cravant.
Oui. Alors, les camps d'internement ont été mis en place par Vichy, hein, pas par les Allemands.
Oui.
Donc, c'est une politique assumée de l'État français. Et on y enferme les communistes massivement. Et on va y enfermer rapidement après les Juifs et les Tziganes. Et ces camps vont servir de réservoir d'otages. Et plus tard, à partir de 1942, pour charger des wagons de déportés. Donc la politique de Vichy est c'est une politique de terreur d'État. Alors il est évident que ces camps, ce n'est pas Mauthausen comme le camp où Simon sera envoyé en 1943. Mais ce sont des camps où les gens sont internés. Et ils sont soumis à une politique répressive.
Alors, Jean-Yves Boursier, on est au terme de notre émission. C'était donc une première partie consacrée effectivement au parcours. Vous avez utilisé le terme d'aventure de Robert Simon. On se retrouve, si vous le voulez bien, samedi prochain, 31 octobre, toujours à 11h sur Radion à bord de Wagon Livre. Et nous parlerons effectivement de l'engagement, c'est-à-dire faire la guerre sans uniforme, ce qui a été le cas de Robert Simon. Un mot de commentaire, Jean-Yves Boursier ?
Oui, véritablement aventure, parce que c'est une situation très complexe. Dans laquelle se sont trouvés des gens comme Simon et des milliers d'autres dans les années 30, à la fin des années 30. C'est-à-dire, que faire ? Alors que les repères se brouillent. Qui aurait imaginé, en 1936, que l'Union soviétique allait pactiser avec Hitler en 1939, avec le pacte ? Les références pour des millions de gens se compliquent très nettement. Ensuite, que le Parti socialiste se disloque, rien d'étonnant, parce qu'il naît, il renaît de ses cendres en fonction des événements, c'est arrivé plusieurs fois.
Et puis certaines figures socialistes vont glisser un peu vers le francisme, enfin vers Vichy, certaines.
Une grande partie des socialistes a participé à la mise en place de Pétain.
Bon, par le biais parlementaire.
Par le biais parlementaire, bon. Mais les partis politiques sont disloqués, tous disloqués. Le petit groupe auquel appartenait Simon, le PSOP, c'est encore extraordinaire. Les chefs sont tous partis. Ils sont tous en mission, à Oslo, ils sont tous partis. Il n'y a plus de chef.
Oui, alors Thorez, lui, partira en Union soviétique. Et puis Marceau Pivert part au Mexique, lui.
Mais,
un peu sur le chemin de Trotsky, d'ailleurs.
Voilà, mais le Parti communiste a quand même un appareil, petit appareil, mais un appareil quand même qui subsiste. Oui. Et qui va reprendre la main à partir de 1941. Reprendre la main au sens où il va pouvoir engager quelque chose. Et il est le seul. Parce que, avant, il faut dire les choses très simplement, Germaine Tillon, qui a été une des premières résistantes de France, hein, dans le réseau du Musée de l'Homme, avec le réseau du Musée de l'Homme, dit que la résistance, au début, c'est une poignée de gens, qu'elle se diffuse comme dans une infusoir, c'est-à-dire à la vitesse dans une infusoir. Donc, il y avait très peu de gens qui, en 40, étaient résistants. Après, ça va changer, ça va être plus dur. Mais c'est la situation. C'est une situation. Simon est dans un isolement désespéré, mais les autres sont dans l'abattement.
Jean-Yves Boursier, justement, samedi prochain, nous parlerons des premières actions de résistance, notamment à travers ce voyage de Robert Simon, qu'on va dans un premier temps rencontré dans le réseau gaulliste d'Astar en septembre 1941. Il adhère ensuite au Parti communiste français en janvier 1942. Et là, ensuite, il rentre chez les FTP. Ensuite, il sera arrêté effectivement par la police française, torturé et livré aux Allemands et ensuite déporté à Mauthausen. Ce sera en tout cas le contenu de notre deuxième émission samedi prochain avec notre invité Jean-Yves Boursier qui signe d'Auxerre à Mauthausen et Prague, le voyage de Robert Simon dans le siècle. Merci Jean-Yves Boursier, à samedi prochain. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous et rendez-vous samedi prochain pour la suite des entre guillemets aventures de cet instituteur de Lyon, Robert Simon. Merci d'avoir été avec nous.